A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Naissance en Guadeloupe, un ancêtre au Cameroun et une sensibilité antillaise énervée. Aujourd'hui, c'est Christian Lara qui vous regarde en sol majeur avec un œil de réalisateur, scénariste, producteur français qui n'arrête pas de faire des films, 26 au compteur, mais qui souvent, je parle de ces films, n'ont pas la visibilité espérée. Heureusement, les salles obscures se souviennent notamment de Sucre amer, 1802 l'épopée guadeloupéenne, ou Coco la fleur candida, film réalisé en 79 et qui fait de Christian Lara le père du cinéma antillais. Une sorte de père fouettard d'ailleurs, qui revient régulièrement sur une page d'histoire qui fait mal. Et notre homme ayant le bon timing dans la tête, et 2018 étant l'année du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, notre invité en sol majeur vous attend au cinéma les 8 et 13 octobre prochains, au 7 Parnassien à Paris, avec deux films qui combattent un peu à leur manière les trous de mémoire de notre histoire de France, esclaves et courtisanes et héritage perdu. Bonjour Christian Lara.
Bonjour.
Vous faites beaucoup de films, mais vous êtes de ces réalisateurs dont on parle peu. Est-ce qu'il y a un complot ?
Non, je ne vais pas parler de complot, mais je voudrais me permettre de vous rectifier sur trois choses. D'abord, je ne suis pas énervé. Je suis pas un réalisateur. En fait, je suis un auteur-metteur en scène. Il y a une différence parce que de plus en plus, on a tendance à qualifier les réalisateurs techniciens. C'est-à-dire ceux qui prennent un scénario, n'importe lequel, et qui réalisent parce qu'ils ont été formatés par des écoles de cinéma. Or moi, j'écris mes scénarios moi-même et par conséquent, et je les mets en scène, donc je suis un metteur en scène. Et enfin, troisième point, je ne me considère pas comme français avant tout. Je suis d'abord guadeloupéen.
Bon, c'est pour ça que vous êtes assis dans ce fauteuil dans sol majeur. Mais pourquoi est-ce qu'on parle si peu de vous ? Vous le savez ?
Parce que je ne suis pas quelqu'un qui cherche le décorum, la gloriole. Je suis quelqu'un qui avant tout crée. Je suis un artiste.
Oui, mais vous avez vos films ont besoin d'être vus.
Je m'en fous. Sincèrement, c'est... Non, franchement, j'ai déjà fait le tour du monde avec mes films. Par exemple, avec un film comme Sucre amer, j'ai été au Japon. Coco la fleur a été projeté à Pékin. Je ne cherche pas à faire carrière.
En tout cas, pour rentrer dans votre ensemble majeur, j'aimerais d'abord un petit peu de vélo. Alias Marcel Lelia, ce maître tambouillé, c'est comme ça qu'on dit ?
Absolument, c'est sinon le plus grand tambouillé, le plus grand joueur de ca de la Guadeloupe.
Que vous rappellent ces tambours ?
C'est les origines, c'est la tradition, c'est la culture, la véritable culture guadeloupéenne. Parce que si vous le dites, c'est que vélo, écoutons-le.
Pour vous, la terre natale, terre d'origine, est synonyme de quel mot ?
Afrique, berceau, nature et vie. Et aussi esclavage, évidemment.
Alors, vous savez que vous êtes un peu un mystère, parce que tantôt je lis que vous êtes né à Basse-Terre, donc en Guadeloupe. Tantôt, je lis que vous êtes né au Cameroun.
C'est comme ça qu'on fait les légendes. Mm-hmm. Vous savez ce que disait John Ford ? Il disait, si la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende.
Est-ce qu'on peut savoir quand même la vérité ?
Oh, la vérité est toute bête. Je suis né à Basse-Terre, en Guadeloupe, et je suis fier d'être basse-terrien.
Et vous avez grandi où ?
Alors, j'ai grandi, c'est assez... Là, on commence à se perdre. Entre 8 ans et 20 ans, j'ai grandi dans beaucoup de pays sans vraiment y séjourner. C'est-à-dire que mon père avait l'habitude d'étaler la carte de France et de me dire « Où veux-tu aller à l'internat ?» parce que j'étais déjà une espèce de rebelle. Et je fermais les yeux, je pointais mon doigt sur la carte de France et j'allais à l'internat, là où le doigt se posait.
Que faisait votre père ?
Mon père était directeur des travaux publics, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être chef en Guadeloupe, donc on l'a envoyé chef en Afrique. Faisant une fonction de blanc, les Africains le prenaient pour un blanc, alors qu'il était complètement noir.
Et pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas faire cette profession en Guadeloupe ?
Parce que c'était la grande règle, non pas romaine, simplement française, divisée pour régner.
D'où vient votre nom, Lara ?
Alors mon nom vient d'un village du Cameroun. Dans le nord du Cameroun, il y a un petit village, un petit Lamida. Et le Lamida, au Cameroun, c'est un royaume. Et c'est le Lamida de Lara, qui veut dire un Lara del Aré, faiseur de chef.
D'accord. J'ai vu qu'en exergue de votre film Esclaves et courtisanes, vous écriviez à la mémoire de mon aïeule camerounaise Berthilde, capturée, oui, et vendue, envoyée loin de Lara, son village qu'elle n'oublia jamais.
Est-ce oui, que vous... parce oui. qu'on peut toujours capturer quelqu'un, on peut l'humilier, on peut le torturer, mais on ne peut pas lui enlever son esprit. Or, elle, cette aïeule, elle a été transbordée, elle a été vendue, puis elle a enfanté. Et lorsque son enfant a réussi à gagner son affranchissement, à ce moment-là, elle lui a donné le nom de son village parce qu'elle l'avait toujours en tête. Et vous savez pourquoi mon arrière-grand-père seulement a été affranchi ? C'est parce qu'il a sauvé de la noyade, dans la rivière Le Galion en Guadeloupe, le fils du gouverneur Gourbert. En reconnaissance, évidemment, le gouverneur l'a affranchi. Et à ce moment-là, il lui a donné un petit peu d'argent, bon, comme pour démarrer dans la vie. Et cet argent, mon arrière-grand-père s'en est servi pour racheter sa mère, Berthilde, afin qu'elle puisse mourir libre. Comment voulez-vous ne pas être fier d'une telle famille ?
Alors là, vous évoquiez la figure d'Oruno Lara, c'est ça, cet arrière-grand-père ?
Non, ah, ça, c'est le grand-père. Mon arrière-grand-père s'appelait Moïse, parce qu'il, évidemment, avec la rivière, sauvait des eaux, etc. Donc, mais son fils est devenu le premier historien nègre de la Guadeloupe. Alors pourquoi nègre ? C'est parce qu'il signait lui-même historien nègre en capitale. Vous savez... Comme mon arrière-grand-père, il y a des hommes comme par exemple Lethière, qui lorsque Lethière, c'est le peintre, Lethière, celui qui a fait le serment des ancêtres, qui est actuellement en Haïti. Et Ingres, qui était un ami de Lethière, lui demandait « Mais pourquoi tu n'as pas seulement signé ton tableau ?» Il avait ajouté « Né en Guadeloupe ». Alors Ingres lui disait « Mais pourquoi tu as ajouté ça ? On signe simplement ?» Il dit « Non. Plus tard, je ne sais pas ce qui peut arriver. » Et effectivement, on pouvait le blanchir.
Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le cas de votre grand-père Oruno Lara, d'être historien noir dans ces années il est né en 1879, mort en 1924.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire dans ces années-là, post-esclavage encore ?
Oui, c'est-à-dire qu'il fallait rassembler, vous savez, on vient d'écouter Vélo. Vélo est un des plus grands tambouriers de la Guadeloupe, et Le cas, c'est un instrument qui a été amené d'Afrique par les esclaves. Et le cas, c'est vraiment l'origine de la culture guadeloupéenne. Et mon grand-père a voulu codifier cette culture qui s'éparpillait, parce que la mémoire passe, les gens meurent.
D'accord. Donc on a les œuvres Dorounou Lara.
Ah oui, il y a le livre qui s'appelle « Histoire de la Guadeloupe ».
Alors on évoque la branche africaine de votre arbre, c'est une branche dont vous semblez fier, mais il y a l'autre branche, la branche des béquets. Qu'est-ce que l'amoureux de l'histoire sait de ces colons européens ?
D'abord, il faut que je dise que je n'ai aucun béquet dans ma famille, parce que mon père et ma mère étaient deux Guadeloupéens d'origine. Mais il y a eu, si vous voulez, des mariages qui ont permis de faire des associations de mulâtres, mais jamais avec un blanc. Il n'y a pas de blanc dans ma famille. Par contre, il y a des mulâtres venus de l'extérieur, qui ont à ce moment-là apporté leur pâleur, si je puis dire, du côté de ma mère. Et ma mère était très claire, mais on n'a jamais trouvé l'origine de cette clarté.
Et ça vous dérange, ça, ou pas ?
Non, pas du tout.
Cette obscurité sur cette clarté ?
Non, non, non. Personnellement, ça ne me dérange pas. Moi, je ne suis pas un homme qui reste arc-bouté sous la couleur.
Popcorn et puis strapontin dans Sol majeur pour une première séance de Salle obscure avec vous, Christian Lara, et un petit zoom sur Coco la fleur Candida.
Ah.
J'avais envie qu'on s'arrête quand même une seconde en Sol majeur sur ce film. Vous le réalisez en 79, il est donc présenté comme le premier film antillais. Le pitch ?
Non, c'est pas il est présenté, non, c'est qu'il est réellement le premier film de la Caraïbe. C'est-à-dire que le pitch, c'est un conteur qui est manipulé par des gens venus de Paris pour aider un parachuté en politique lors d'élections législatives. Et ce conteur se rend compte à un moment donné qu'on le manipule, et comme il n'est pas si idiot que ça, parce que le bon sens est populaire et qu'il gagne l'affection et l'adhésion du public, eh bien il se maintient. Et comme il dérange...
Ah oui, votre portable, monsieur Lara.
Et comme il dérange beaucoup, à un moment donné, on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire on l'assassine.
Alors, pour les images, vous allez vous débrouiller, mais pour le son, voilà ce que ça donne.
Dans la situation actuelle, il nous faudrait quelqu'un qui obtienne les voix du premier tour et se désiste en votre faveur. Seulement, voilà, pour le moment, nous n'avons que deux candidats, vous et celui de la gauche.
D'après les récents sondages effectués, pour que vous puissiez passer au second tour, il faudrait récupérer 8 à 10% de voix à l'opposition, et les 8 à 10% de voix, il faut les prendre où ? Il faut les prendre dans le peuple.
Bon, Tim !
C'est un conteur, ce gars.
Il a l'air populaire.
L'eau de boule ! Au parcours de ça, en partant de nouveau, l'eau de boule !
Vous savez, David, être fonctionnaire, c'est s'oublier soi-même. On sert un pays, enfin on sert surtout l'idée qu'on se fait de ce pays. Comme le général, moi aussi je me suis fait une idée sur la France. Et c'est pour ça que je vous ai aidé. Je suis sûr que vous ferez un excellent député, un peu particulier certes, mais sûr et certain, vous servirez très bien les intérêts de votre peuple.
Comme une passante qui fait comme ça, nul ne connaît l'histoire de la prochaine aurore.
Mais j'ai la préfet, faut ça changer.
Oui.
Qui m'a dit ça? Tout nom c'est nom. Tout nom ni même besoin, ni même droit, ni même devoir. Alors pas de raison. Hein?
Si.
Nous besoin d'argent. Nous besoin d'argent pour nous manger.
C'est comme Cinémascope.
Pour En Sol majeur sur RFI, avec notamment Robert Liensol dans le rôle de ce Coco la fleur candidat, premier film de l'histoire du cinéma en créole, Christian Lara. Ça a été un choc, ça, à l'époque ?
Ah oui. Et en même temps, une très belle aventure. Le jour de la présentation du film, j'étais dans la salle avec ma mère, au fond, et à la fin du film, pas un seul applaudissement, rien. Silence total. Et moi, je me tourne et je dis à ma mère, ils n'ont pas aimé. Elle me dit, non, tu ne connais pas ton pays. Attends, on est sortis. Et à ce moment-là, tous les spectateurs de la salle étaient massés devant le cinéma et avaient commencé à parler avec toute la file qui allait rentrer voir le film. Et c'était ce que je voulais, c'est-à-dire le début d'un échange. C'était extraordinaire.
Mais vous qui vous définissez donc comme auteur, metteur en scène, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce Coco Lafleur qui est au cœur d'une machination politique dont il va sortir éveillé et avec une prise de conscience politique?
Je n'ai pas cherché très loin mon inspiration. Parce que...
Ça se passe dans quel contexte finalement?
Pardon, dans quel contexte? Je
politique à l'époque, on est en 79. Qu'est-ce que vous sentez de cette Guadeloupe?
La Guadeloupe, à ce moment-là, il y a le problème de l'indépendance, qu'on masque, qu'on cache. Si vous voulez, il y avait à cette époque une tension très forte, politiquement parlant, entre les politiques qui se considéraient eux-mêmes comme les cocus de la France, parce que la départementalisation déjà ne marchait pas. Parce que vous savez, par exemple, si on parle de la départementalisation, on peut dire que si on nous avait, dès le départ, aligné sur les départements de l'Hexagone, ça aurait pu peut-être marcher. On nous a promis, comme d'habitude, et ensuite, on n'a rien fait. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait un autre film qui s'appelle Mamito, c'est en 79, Coco Lafleur est en 78. Et j'ai fait un constat de l'économie de la Guadeloupe à ce moment-là. Et 30 ans après, le LKP a repris exactement toutes mes doléances.
Aujourd'hui, 40 ans après, quand on regarde ce film en métropole, puisqu'on dit toujours la métropole finalement...
Quoi faire-t-il l'Hexagone?
On peut dire l'Hexagone aussi. On se dit, oui, c'est pas mal, c'est un film sympa, mais en fait, je ne suis pas sûre qu'on mesure l'audace qu'il y avait à signer ce genre de film.
Si, croyez-moi.
En quoi c'était audacieux à l'époque?
C'était audacieux parce que c'est pas compliqué. Dès que le film a été encensé par Le Monde, d'ailleurs, qui a fait toute une page sur le film, oui. Le lendemain, j'avais les RG devant ma porte.
Ah.
Les RG, pour ceux qui ne savent pas, c'était les renseignements généraux. J'ai été suivi pendant un mois avec une 4L, mais sans problème. Hein. Ils essayaient même pas de se cacher ni quoi que ce soit. Ils me suivaient, ils notaient où j'allais, etc. À pouvoir, si j'avais des accointances politiques. Or, moi, je ne suis pas un homme politique. Je suis un metteur en scène, je suis un cinéaste. Pour moi, le metteur en scène, le cinéaste qui se respecte, ne doit jamais faire de politique, ne doit pas s'engager en politique. Il doit simplement donner des pistes aux politiques.
Et justement, est-ce que ça a produit des Coco Lafleur, votre film, vous pensez?
Écoutez, comme j'attaquais dans le même film, j'attaquais la compagnie Air France qui ne faisait rien, 15 jours après, j'étais dans le bureau du PDG d'Air France qui me disait « Monsieur Lara, on va faire quelque chose ». Et les tarifs et les billets à tarification spéciale a commencé avec ça, parce qu'il n'y avait rien du tout de fait.
Alors ce film, faites-vous donc le père du cinéma antillais, c'est assez joli ça. Cette idée de faire du cinéma, cela dit, elle est née comment dans votre tête?
Elle est née parce que je suis parti de chez moi à 7 ans, c'est-à-dire, comme je vous ai dit...
À 7 ans, oui, de Guadeloupe, vous voulez
dire. De Guadeloupe, mon père m'a emmené en Afrique. À ce moment-là, je suis parti avec un petit sachet où j'avais mis déjà un peu de terre de la Guadeloupe, vous voyez. Je suis très amoureux de mon île. Et plus je grandissais, plus j'étais bon uniquement en photo. Et je suis arrivé à rentrer dans l'un des plus grands quotidiens de Paris, le Figaro. Dans le journalisme, on vous apprend beaucoup de choses. Clémenceau disait que le journalisme mène à tout, à condition d'en sortir. Et bien, j'en m'en suis sorti.
En tout cas, dans vos jeunes années, mais même aujourd'hui, je sens que vous aimez donc passionnément l'histoire, le 7e art et les jolies filles avec qui zouker sur le sable. Vous avez fait ça sur Expérience 7, Christian Lara, vous avez zouké.
Vous savez, les jolies filles, ça a toujours été, disons, un bonus.
Sympa pour les jolies filles.
Vous savez, elles le savent très bien. Quand elles viennent voir un metteur en scène, elles savent très bien où elles vont.
Vous pensez quoi du mouvement MeToo, vous?
Personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui, à un moment donné, a eu son sens. Mais faut pas trop exagérer, parce que le féminisme... Je suis un auteur féministe. Par exemple, mon premier long-métrage racontait l'histoire d'un écrivain Et cet écrivain avait écrit un pamphlet contre les femmes et ses héroïnes. Les héroïnes du roman sortaient du roman et le mettaient en question.
Bon. Après donc, vous voyez. Petite leçon de féminisme, je ne sais pas si j'ai vu. Je vais prendre une petite leçon de zouk avec vous, Christian Lara. Leçon de zouk sur RFI avec Expérience 7, comme si c'était hier, avec Christian Lara, que j'ai pas vu zouker, hein, je suis un peu déçue. Christian Lara qui a sa casquette de metteur en scène, auteur-metteur en scène, bien vissé sur la tête. On va repartir dans sa Guadeloupe natale pour un petit peu de sucre amer lorsqu'il pense à Colbert.
Déclarons les esclaves être meubles.
Souviens-toi, c'est nos mains en cours.
Et comme tel, entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, partager également entre les cohéritiers sans précipu et droit d'aîné.
La liberté, la liberté, la liberté.
C'est comme code noir.
N'être sujet aux douaires coutumiers.
Qui dit colonie du Royaume de France dit Code Noir, le premier ayant été préparé par le ministre Colbert entre 1619 et 1683. Mais vous, Christian Lara, la date qui vous intéresse par rapport à ce Code Noir, c'est 1802. Pour quelle raison ?
Parce que la Convention avait aboli en 1794 l'esclavage, sous l'impulsion de l'abbé Grégoire, entre autres. Et 8 ans après, 8 ans seulement, il faut quand même comprendre ça, 8 ans seulement, un petit Corse décide de rétablir l'esclavage parce qu'il a besoin d'argent pour faire ses guerres. Donc Bonaparte, en mai 1802, rétablit l'esclavage. Mais pour rétablir l'esclavage, évidemment, les Guadeloupéens ne sont pas d'accord parce qu'ils ont goûté à la liberté. La Guadeloupe a été peut-être le seul département à être libre en 8 ans. La Martinique, à l'époque, était anglaise, donc l'esclavage n'a pas été aboli à ce moment-là. Et donc, les Guadeloupéens ont normalement pris les armes. On parle d'épopée napoléonienne, c'est faux. L'épopée, c'est quelque chose qui demande un sacrifice suprême, la mort. Voulu, accepté. Il y en a eu 4 à travers le monde depuis que le monde existe. Il y a eu les Grecs aux Thermopyles, il y a eu les Juifs à Massada, il y a Sitting Bull, la grande épopée des peaux rouges, et enfin la nôtre, C'est-à-dire que ce sont des hommes qui se sont retrouvés encerclés et qui ont voté leur propre mort.
Vivre libre ou mourir, pour Absolument. Reprendre le cri de Delgrès. Mais qui est ce Joseph Ignace qui est la figure centrale de votre film Sucre amer ?
Joseph Ignace était un charpentier, c'était quelqu'un qui, à l'époque où la Convention avait aboli l'esclavage, s'était engagé dans l'armée, un simple charpentier, et avait gravi les échelons parce que c'était un meneur d'hommes. Il était devenu capitaine. Et lorsque la guerre de Guadeloupe s'est déclarée, il fallait choisir le camp. Parce que des frères se sont battus entre eux. C'était plus qu'une guerre d'occupation, de colonisation, c'était une guerre fratricide, menée par Pélage, qui était un Martiniquais, mais qui a préféré choisir la France.
Alors, votre film se construit, je l'ai revu pour l'émission, c'est un film magnifique. Il se construit autour de scènes de reconstitution historique d'un côté, de la rébellion, et d'un autre côté, du tribunal, des scènes du procès qu'il va avoir lieu, un tribunal d'apparence contemporaine d'ailleurs, avec Ignace qui, au cours de son procès, prend la parole, peut-être pour la première fois, devant l'histoire.
Accusé, reconnaissez-vous les charges relevées contre vous ?
Ah ouais.
Répondez en français, s'il vous plaît.
La cour aura à cœur, je l'espère, d'excuser le commandant Ignace. S'il comprend parfaitement le français, le commandant Ignace s'exprime beaucoup plus aisément dans sa langue maternelle.
C'est la comédie, monsieur le président. Le créole, une langue. Tout au plus un patois.
Et qu'est-ce que le français, sinon du patois latin ?
La cour accède à la demande de la défense et entendra l'accusé en créole. Accusé, quel est le nom de votre père ?
On ne pas connaître lui.
Je ne le connais pas.
Et celui de votre mère ?
On ne pas connaître lui non plus.
Je ne le connais pas non plus.
N'oubliez pas, la mémoire du nègre a été volontairement balancée par-dessus le bastingage du navire négrier. Les noms des esclaves, ces noms qui signifiaient tout pour eux, ont été effacés, interdits, oubliés.
Extrait en sol majeur de Sucre amer, donc avec ce Joseph Ignace qui dit non au rétablissement de l'esclavage voulu par Napoléon. Et ce procès, qui est un procès un peu fantasque, où comparaissent notamment Joséphine, l'épouse de Napoléon, et Schœlcher, avec donc cette prise de parole en créole devant le tribunal de la République. Est-ce que tout ça, c'est un pur fantasme d'auteur, Christian Lara ?
Non, parce que tout le monde parle. Par exemple, quand Mitterrand est mort, on a dit qu'il va comparaître devant le tribunal de l'histoire. Souvent, on parle du tribunal de l'histoire. Et bien moi, j'en ai fait un. Voilà.
Oui, ça s'appelle un fantasme aussi.
Oui, c'est un fantasme réalisé. C'était plus que ça, parce que, par exemple, pour Sucre amer, je voudrais dire une petite anecdote qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il n'y avait pas de héros, il n'y avait pas de statues. Les seules statues qu'il y avait, c'était...
Vous voulez dire en Guadeloupe ?
En Guadeloupe, il y avait les statues des colonisateurs, des soi-disant grands hommes, etc., de la colonisation. Mais il n'y avait pas des grands hommes de chez nous. Et quand j'ai fait ce film, il y a eu un mouvement qui s'est dessiné et un maire, le maire des Abîmes, a décidé de faire à Pointe-à-Pitre l'avenue des héros. Et j'étais pas là. Et quand je suis revenu, j'ai été surpris de voir que la statue d'Ignace, la statue de Solitude, était copie conforme de mes comédiens. Alors j'ai été étonné, j'ai été voir le sculpteur, il m'a dit « Mais monsieur Lara, il n'y avait pas de photo à l'époque, donc j'ai pris la photo de vos comédiens. »
Donc vous faites œuvre d'historien un peu, non ?
C'est plus que de l'histoire, c'est une espèce de sculpteur à ce moment-là.
Mais c'est une vraie question, est-ce que le cinéma pour vous est un lieu où se joue quelque chose de l'histoire ? C'est comme ça que vous le concevez ?
Ah, c'est très important. Par exemple, quand j'ai fait 1802, l'épopée guadeloupéenne...
Donc qui a suivi Sucre amer ?
Qui a suivi, parce que Sucre amer, malheureusement, mes compatriotes n'ont pas compris grand-chose. Je dois dire, oui. Et comme moi je suis têtu, et que je voulais absolument imposer la figure de Delgrès, j'ai fait 1802. Mais quand je suis né, Delgrès était méconnu.
Donc ce goût de l'histoire, on le sait, ça vient peut-être d'un aïeul, d'un grand-père.
Oui, mais c'était très important parce que, par exemple, maintenant, de nos jours, chaque 27 mai, Le film est projeté dans les écoles.
Qu'est-ce que c'est le 27 mai ?
C'est l'explosion du Matouba, la mort de Delgrès. Et vous savez une chose qu'on ne sait pas trop, c'est que à cause de nous, Haïti est devenue indépendante. Parce que ceux qui ont réussi à fuir, ils sont partis en Haïti, ils ont été voir Dessalines et Christophe, et ils leur ont dit ce qui était arrivé à la Guadeloupe, c'est-à-dire l'intransigeance de la France.
Et qu'est-ce que vous réclamez, vous, sur le plan de l'histoire ? Vous savez, il y a des mouvements aujourd'hui, ce mouvement qui consiste à vouloir, par exemple, débaptiser certaines rues en France, les rues Colbert je ne sais pas si ça n'a pas eu lieu, d'ailleurs.
Oui, mais je trouve ça un peu stupide. C'est-à-dire, débaptiser une rue Colbert, par exemple, qu'est-ce que ça amènera quoi ? Par contre, si on laisse la rue Colbert et on apprend qui était Colbert, croyez-moi, la mentalité des gens peuvent changer.
C'est l'histoire d'une capture, celle d'une Africaine dans les filets de l'esclavage. Elle se retrouve dans une maison close. Elle va tomber ensuite sur un gentilhomme juif qui va la racheter. Cette histoire...
Qui veut la racheter. Mais qui n'y arrive pas parce que la patronne dit non.
Cette histoire est consignée dans un livre et c'est ce livre qu'on nous raconte et qui nous est lu par une courtisane moderne et chinoise. Esclave et courtisane, extrait.
Je suis née dans un village au bord de la Grande Lagune. Mon nom est Zé. Mon père c'est Kumasi, le diseur d'Omo. Là-bas, je gardais une bonne centaine de cabris. Et puis un matin, les voleurs d'hommes sont arrivés. Pendant la traversée, j'ai vu mourir beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants. Les autres tenaient, j'ai décidé de tenir. Un matin, je me suis retrouvée dans un marché, de l'autre côté de l'océan, au milieu de poules, de cochons, de meubles, de bananes vertes. Ce jour-là, c'était moi qu'on vendait.
Un petit peu d'esclaves et courtisanes pour En sol majeur sur RFI. Et je rappelle donc que ce film sera projeté le 8 octobre prochain à Paris, au 7 Parnassien, en votre présence, Christian Lara, et en présence de Sidiki Bakaba. C'est un film porté par Mikwan Lok, une comédienne chinoise ?
Oui, chinoise. Franco-chinoise, parce que là encore, j'ai trouvé que la visibilité des comédiens asiatiques sur les écrans petits ou grands de France est carrément nulle.
Et quel lien avec cette thématique de l'esclavage ?
Parce que c'est une prostituée. Et qu'elle ne fait pas ce métier par plaisir, elle le fait pour survivre parce qu'elle est dans un pays qui n'est pas le sien et qu'elle est obligée de payer des factures, des impôts, etc. etc.
Donc vous portez un regard féministe sur l'esclavage.
Une fois de plus. Une fois de plus.
Oui. Ce livre qui raconte donc l'histoire de cet esclave, est-ce qu'il existe ?
Non. Non, mais il y a plusieurs livres qui ont été écrits par des esclaves affranchis. Et donc, si vous voulez, c'est un petit peu à partir de faits réels que j'ai synthétisé, parce que ça aurait été trop long de raconter vraiment toutes les indélicatesses, les difficultés, les épreuves douloureuses. Non, j'ai préféré schématiser un petit peu les choses.
Alors, à noter la présence aussi d'un comédien fétiche pour vous peut-être, Sidiki Bakaba, qui tient le rôle de Kwame Nouria et qui est un président noir en cavale. Il se retrouve planqué.
Non, il n'est pas en cavale.
Ah,
oui, il a une importante décision. Il est venu à Paris pour signer un gros contrat parce que son pays possède quelque chose que la France veut. Au début, on ne sait pas qui il est. Et forcément, ceux qui l'entrevoient pensent que c'est un truand. Parce que quand on est noir, on est forcément malhonnête. On est soit migrant, soit truand, soit prisonnier, évadé, etc. Or, il y a une évasion. Donc on peut confondre. Volontairement, j'ai créer cette confusion.
En tout cas, vous enfermez vos personnages dans une pension de famille perdue au milieu de nulle part. Et tous ces personnages, ce président noir, cette prostituée chinoise, mais il y a d'autres personnages, se retrouvent un peu confrontés à eux-mêmes.
Ah oui, complètement. Parce que quand vous êtes tout seul, vous êtes forcément confronté à vous-même. La prostituée, elle en a marre. Elle ne veut plus faire ce métier, mais elle est presque obligée. Ce président, il est obligé de se cacher pour prendre une décision importante parce que en dehors des lobbies, on parle en ce moment beaucoup des lobbies, des gens qui vous influencent, des influenceurs. Est-ce que Les Courtisanes, c'est un très grand film
d'auteur, esthétiquement?
C'est-à-dire que pour moi, j'accorde une importance primordiale à l'esthétisme.
Quelle est la plus belle image ou la plus belle scène d'esclaves et courtisanes que vous voudriez qu'on apporte?
Ah, la plus belle scène. Alors là, je suis obligé de dire que c'est lorsque l'actrice est allongée et que... voilà, c'est très joli.
Mais on voit rien là. Hein.
Non, on voit rien. Justement, on devine tout.
Oui, c'est très suggestif, effectivement. Autre film qui nous oblige à faire un flashback, Christian Lara, c'est Héritage perdu. Là, c'est l'histoire d'un cultivateur guadeloupéen qui un jour reçoit une lettre et un billet d'avion l'invitant à venir visiter sa famille africaine, avec à la clé comme héritage rien moins qu'un trône royal.
Les esprits l'ont prévenu de ton arrivée.
Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Que quelqu'un viendrait de l'autre côté des mers et que le royaume subirait un grand danger.
Les royaumes voisins t'ont envoyé leurs plus belles filles. Mais il faut décider. Combien seront-ils admis à participer à la danse de la séduction?
Il n'y a qu'à voter.
Voter?
Oui, la démocratie, quoi. Traduit.
Je ne peux pas traduire ça, Baba.
Et pourquoi?
Mais parce qu'il n'y a pas de mot démocratie dans notre langue.
Ton ancêtre s'appelait Olembe.
Puisque tu le savais, pourquoi tu ne m'as rien dit?
Il fallait que tu le découvres toi-même.
Dis.
À cause de la malédiction.
D comme diaspora.
Avec les voix donc de Sidiki Bakaba et Luc Saint-Éloi, à voir le 13 octobre au 7 Parnassien à Paris, Héritage perdu, Christian Lara. Et alors en fait, si on reprend l'intrigue, plane au-dessus de ce royaume africain une sorte de malédiction. Et celui qui peut la chasser, c'est ce que va découvrir le sorcier Anoko, incarné par Bakaba, c'est un Antillais blanc dans sa mentalité. C'est quoi le message là?
Le message, il est simple, c'est que l'Afrique a besoin de toute sa diaspora, que ce soit les Antillais, les Afro-Américains, de toute sa diaspora, parce que l'Afrique a été exsangue de 75 millions d'individus. Alors, c'est un peu de la faute des Africains eux-mêmes, je ne le nie pas, mais avant tout, c'est quand même, je dirais, une déforestation humaine qui s'est opérée. Maintenant, ça va, ça commence à aller.
Il y a de grands intellectuels diplômés aujourd'hui.
Absolument, et aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Mm-hmm. Mais on a besoin de toute cette diaspora pour pouvoir remettre ce continent qui... Tout le monde dit que c'est le premier continent de l'avenir, mais pour le moment, il est à la traîne.
Qu'est-ce que vous mettez dans ce mot d'héritage?
Vous savez, quand un esclave, avant d'être mis dans le canot pour être transbordé sur le vaisseau qui allait l'emmener, on le faisait tourner autour d'un arbre, et cet arbre, c'était l'arbre de l'oubli. Donc, il partait qu'avec son esprit. Et l'héritage, malheureusement, a été un petit peu oublié parce que l'esprit d'un homme s'use, s'épuise. C'est un sujet qui m'intéresse.
Est-ce que c'est aussi un film d'historien, Héritage perdu?
Non. Ça, c'est un film de l'amoureux de l'Afrique que je suis. Parce que j'ai connu l'Afrique des années 1950.
C'est presque une Afrique coloniale, hein, celle des années 50.
Ah oui, en 1950, il y avait encore le drapeau français. Mais quand vous alliez dans les villages, il n'y avait plus le drapeau français, il n'y avait rien. Il y avait l'Afrique ancestrale.
Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez emmené? À part la terre guadeloupéenne, qu'est-ce qu'il y a dans vos poches de cette Afrique lointaine que vous aimez?
Les traditions, les légendes.
Laquelle de tradition, par exemple?
Je vais vous dire une que je n'ai pas dit dans Héritage perdu. Je suis au Togo et j'ai 15 ans, je crois, et je vais avec mon père dans un village. Il y avait une fête de village. Il y a le sorcier qui commence à lancer la danse et j'entends des mots. Et j'entends des mots latins. Je ne comprends pas pourquoi. Le lendemain, je retourne tout seul voir ce sorcier, je lui dis, voilà, hier vous avez dit telle et telle chose, c'est du latin. Il me regarde, il me dit, fils, je ne sais pas ce que je dis, je suis en transe. Voilà.
Alors en tout cas, avec Héritage perdu, on est presque déjà dans la problématique du pardon, la thématique de votre prochain film, Christian Lara. Puisque là, vous abordez le contentieux entre Antillais et Africains à travers, oui, la figure d'un migrant africain très cultivé, incarné par Sidiki Bakaba, de nouveau, et un gardien de la paix antillais, incarné par Luc Saint-Éloi. Lui, c'est un Antillais qui ne sait rien, en fait, de son histoire et de celle de son peuple. Il ne sait pas grand-chose.
Il veut pas savoir. Il veut pas savoir. Comme la plupart des Antillais qui vivent en France, ils veulent pas savoir parce qu'ils préfèrent se noyer dans la masse.
Ouais. Sauf que cette soi-disant ignorance ou candeur va basculer quand même dans une forme de prise de conscience grâce à cette rencontre avec ce migrant africain. Et moi, j'ai eu la chance de vous surprendre, Christian Lara, en pleine répétition sur les quais de Seine à Paris, pour un extrait du Pardon.
Je viens de comprendre.
Comprendre?
Et pourquoi cette nuit? Pourquoi la mort? Pourquoi vous? Pourquoi moi?
Moi, je ne comprends rien.
Le passé demande réparation au présent.
Mais ça n'a pas de sens.
Mon frère, je vous demande le chemin.
Mais quel chemin?
Cette nuit, j'ai entendu la voix de mon grand-père. Retrouve ton chemin. C'est ce qu'il m'a dit. Nous avons marché si longtemps. Et j'arrête. Je rentre chez moi.
Mais, tous ces sacrifices, toutes ces humiliations, la traversée, tous ces dangers, pourquoi abandonner maintenant? Qu'est-ce que tu vas leur dire chez toi?
La vérité?
Quelle vérité?
La France n'est plus la France. Elle est prise dans ses contradictions, coincée entre sa tolérance et ses grands principes. Ah, les droits de l'homme. Bradée pour un peu de pétrole, elle solde ses valeurs. Si elle continue comme ça, elle vendra même la Tour Eiffel.
Seul majeur un peu de Mozart noir en la personne du chevalier de Saint-Georges qui fait partie du panthéon de votre personnage, cet Africain migrant Demba. Il y a le chevalier noir, mais il y a aussi Fanon, il y a Delgrès, il y a Schœlcher. C'est important ce panthéon que vous reconstituez, Christian Lara, dans ce film.
Oui, pour moi, c'est vraiment le retour aux sources. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé de changer le titre du film.
Ça ne sera plus le Pardon.
Ce sera un sous-titre, le pardon, puisque le pardon risque d'être compris par plus de gens. Mais je vais l'appeler Yafa.
Ce qui veut dire ?
Le pardon.
En quelle langue ?
En bambara.
Pourquoi avoir choisi le bambara pour dire ce mot ?
Parce que dans le film, il y a les personnages, il y a deux personnages qui s'expriment en bambara. Donc j'ai trouvé tout à fait normal de leur rendre leur valeur, de les mettre, de les valoriser.
Alors c'est presque du théâtre, d'après le peu que j'ai vu de répétition. Donc ce migrant africain qui est en position de faiblesse dans son statut, mais pas intellectuellement, loin de là.
Absolument.
Et il a en face de lui quelqu'un qui incarne et... l'autorité, qui est gardien de la paix,
oui.
mais qui se dissout dans la masse. Que représente ce tandem pour vous ?
La réalité. La réalité d'aujourd'hui. Vous savez, il suffit de deux générations pour que n'importe quel noir se blanchisse.
Et que ça veut dire ça ? Deux générations pour qu'un noir se blanchisse ? Qu'est-ce
oui,
qu'on veut
c'est-à-dire
dire
un noir épouse une blanche. Ils ont un enfant. L'enfant épouse une blanche. L'enfant qu'ils ont est blanc.
Oui,
complètement.
Vous parlez juste de mélanine, mais pas d'autre chose.
Non, mais s'il n'y a pas la transmission.
Mais c'est quoi ce contentieux entre les Antillais et les Africains qui vous intéresse tant, Christian Lara ?
C'est très simple. L'Antillais, le haut fonctionnaire antillais, il y en a eu beaucoup, ont été en Afrique à un moment donné, à l'époque de la colonisation, remplacer le blanc. Ils avaient le standing du blanc, ils avaient la voiture de fonction du blanc, et ils avaient les boys, la boyerie. Moi, je me souviens quand j'étais petit, je me souviens de mon boy qui a dit à son frère, je ne sais pas, mm-hmm. je vais chez mon blanc, et je le vois rentrer chez mon père. C'est ça le contentieux. L'Africain se méfie de nous. Par conséquent, je suis obligé de poser la question parce que personne ne pose la question. Les jeunes réalisateurs guadeloupéens ou martiniquais, bon, la plupart, ils s'en foutent de ce problème parce qu'ils n'ont pas été en Afrique. Ils sont restés soit dans leur île ou soit à Paris, dans leur banlieue. Ils ne connaissent pas l'Afrique.
Est-ce que la communauté vous suit dans toutes ces questions que vous posez ?
Écoutez, avant, je peux dire... qu'elle ne me suivait pas. Et puis, depuis quelque temps, dernièrement, j'étais en Guadeloupe présenté donc Coco Lafleur pour son 40e anniversaire. Et il y a eu un engouement extraordinaire. Les gens sont restés, m'ont posé des questions. Et on sent qu'il y a enfin un sursaut de dignité, d'identité. Voilà.
En sol majeur. @rfi.fr.
Au générique de cet ensemble majeur consacré à Christian Lara, deux films à voir au 7 Parnassien à Paris, le 8 octobre Esclaves et courtisanes et puis le 13 Héritage perdu en présence de Sidiki Bagaba, Luc Saint-Éloi et bien sûr Christian Lara. Est-ce que pour refermer ce ensemble majeur, on s'offrirait une petite louche de Louis Armstrong avec The Good Book, Rock My Soul?
Magnifique, ouais. Bien sûr.
Pourquoi
en
vous
tout
aimez
cas...
ça vous?
Parce que c'est l'âme du peuple noir.
Why don't you rock my soul in a bosom of air? Why don't you rock my soul in a bosom of air? Why don't you rock my soul in a bosom of air? Oh, rock my soul. I would not be a sinner. Oh, I'll tell you the reason why.
So
I'm afraid my Lord might call me.
Great God.
And I wouldn't be ready to die.
He already wants you right.
En sol majeur avec Facebook, Twitter, et en podcast sur notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel, 16h à Paris, Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve et on vous espère demain avec Alexandre Najjar. À demain.